Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit. Où,
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonjour.
Bonsoir.
Bienvenue.
Dans Cour d'honneur.
Saison 4, épisode 11.
Ici, deux voix féminines.
Dans vos deux oreilles.
Ici, Chérine.
Ici, Swan.
La Saint-Valentin est passée, mais nous, chers auditeurs, on vous aime toujours.
Et on est limite triste d'ailleurs de ne pas l'avoir passée à vos côtés.
Dis-moi, Swan, c'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Mais justement, Chérine, Cour d'honneur y répond un mercredi sur deux sur Radio Sorbonne Université.
Et un samedi sur deux sur Radio Campus Paris.
Nous sommes le magazine d'infos et de culture avec toujours une pointe d'humour.
Qui fait le tour de la Sorbonne et de ses campus.
Depuis plus de 10 ans.
Pendant une heure, nous vous promettons...
De la guerre.
Je n'avais même pas attendu.
On s'est battu pour ta place. Hein. On a viré Léo, on a viré Lissandro.
On a fait la guerre.
C'est la guerre.
Mais à cour d'honneur, on préfère faire l'amour à la faire la guerre.
Donc on l'amour. Promet aussi l'amour. De l'amour.
Dont on parle toujours.
Ainsi que de la mode.
La Fashion Week.
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion. Non ? Nous, on bosse, nous.
Voici nos promesses.
Avec la meilleure des équipes pour vous servir.
Bonsoir Elias, le fameux Elias.
Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente la météo.
Super.
Super. On a aussi, youpi youpi, une nouvelle. Bonsoir Ellie.
Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là et j'espère que nos auditeurs vont m'aimer autant qu'ils vous aiment déjà. Donc
Et qu'est-ce que tu nous prépares, Lily?
Moi, je vous prépare une petite chronique sur Eugénie Trochu, qui est l'ancienne directrice, rédactrice en chef de Vogue France.
Ok, super, super intéressant. On a aussi Clara. Première émission aussi pour toi, nouvelle recrue, bienvenue.
Merci, je suis ravie aussi de faire cette nouvelle expérience avec vous ce soir.
Également. Qu'est-ce que tu nous prépares?
Malheureusement, de mon côté, on va parler de la guerre, mais...
Troite.
Écoutez, soyez prêts, parce que ça peut aussi parler des liens qui nous attachent. Donc,
C'est beau.
Bien dit, bien dit. On a aussi Alice, bonsoir Alice.
Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Et je suis très heureuse de retrouver nos chers auditeurs. Alors moi, qu'est-ce que je vous ai préparé? Une petite chronique pavée sur 5 des couples les plus emblématiques de la Sorbonne. Voilà.
C'est prometteur. Bonsoir Lavinia aussi.
Bonsoir les filles. Alors, au programme pour la carte postale, je vous fais visiter encore une fois après une semaine l'amphithéâtre Richelieu. Cette fois de manière auditive. Voilà.
Et on a aussi Marion, mais elle n'est pas là, donc on l'embrasse de loin.
On dit aussi bonjour à notre invitée Marianne Boula, directrice des marques au sein du groupe Les Échos Le Parisien.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Sans oublier évidemment Thomas Sankara, toujours pas Tom et Jerry. Et non, c'est encore le fameux, le célèbre, l'unique Thomas Schnell derrière les platines.
On pourrait dire Tom et les nanas. Voilà. Ce soir.
Et oui, effectivement.
Et le pauvre Elias.
Je sais pas, il est oublié. En tout cas, ça fait du bien d'être de retour dans le studio après deux émissions dans des lieux spéciaux. Là, on est enfin à la maison, quoi. Ça fait du bien.
Ça fait plaisir, ouais.
Alors faites comme chez vous, justement. Faites comme à la maison, chers éditeurs. Installez-vous et prenez place du haut de l'amphi.
Dans votre chambre de bonne ou aux toilettes, hein, sur le palier, pardon.
Bienvenue dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Pour bien commencer, on se met dans l'ambiance avec la carte blanche, l'édito de Radio Sorbonne.
Faire peur aux bourgeois, eh bien c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment...
Carte blanche. La Saint-Valentin, c'était il y a maintenant 2 semaines déjà. Elle a disparu de notre pollution visuelle quotidienne en l'espace de quelques heures. Et pourtant, elle était présente bien plus de 2 semaines avant. À quel point cette fête influence notre consumérisme? Avec Swan, parlons de son influence à la consommation, d'achat et de resto, mais aussi de relations.
Et oui, on était à peine rétabli de notre gueule de bois du premier jour de l'année qu'on nous harassait du plus important jour de l'amour, le 14 février. Donc, il est passé maintenant, Dieu merci. Et c'est heureusement, c'est sûrement de Pâques dont on va pas arrêter d'entendre parler, ou même du prochain 14, celui de juillet. C'est terrible quand même, cette tendance du commerce à ruiner une fête qui veut juste célébrer un truc cool et commun et la tourner en une obligation sociétale contraignante. Alors certes, c'est très agréable hein, de recevoir une fleur dans son lit que son mec a chopé durant son footing. On va pas cracher dessus. Mais par contre, on va cracher la pomme d'amour dégueulasse du vendeur devant Odéon ou la crêpe garnie sur fraise chocolat pliée en cœur mais à la pâte pourrie depuis 3 jours. Parce que oui, la Saint-Valentin, c'est dans les rues, les magasins, les couvertures de magazines, sur les voitures. Oui, j'ai vu une Honda avec des autocollants publicitaires et des cœurs, c'est horrible. Arrêtez ça. Mais en fait, qu'importe que tout ne soit que gelé rose bonbon ambulant périmé, ce qui saoule, c'est que l'ambiance, l'offre soit ruinée par le sentiment d'impératif. Tout d'un coup, pour la moitié du mois, le plus court de l'année, il faut surtout pas être célibataire. Tout d'un coup, sur les applis rencontres, tout le monde est en chien. Alors moi, ce vendredi, j'étais hyper malade, donc évidemment, on fait quoi entre deux vomis ? On check Tinder. Normal. Évidemment, je revomis, parce qu'il y a des plutôt dominants, soit ma Valentine soumise, des faisons semblant d'être en couple pour ce soir, ou encore c'est la Saint-Valentin, je panique. Bien moi aussi, Maxime, surtout devant ce selfie de toi nu avec un bouquet de roses entre les jambes. Finalement, maman, tu pourras plus me parler d'addiction au téléphone parce que j'ai éteint mon bigot aussi... J'ai jamais éteint mon bigot aussi vite. Carrément, je suis partie sur le balcon pour me reconnecter à la nature, avec les fleurs qui sont mortes il y a 2 semaines, justement, avant la pub des Saint-Valentin. Enfin, voilà. C'est outrageant le nombre de jeunes qui veulent passer la Saint-Valentin avec des inconnus ou des anciens plans cul, qu'importe tant qu'ils sont pas tout seuls. Ça nous rappelle le plaisir de l'immédiat qu'offrent les applications de rencontres. C'est comme l'alcool, à consommer avec modération. Alors j'avoue, c'est touchant de croiser tous ces hommes dans la rue, un bouquet de fleurs à la main, qui d'ailleurs ils ramènent à la maison comme une baguette de pain. C'est touchant de voir les restaurants bondés avec des tables pour deux où les couples se regardaient les yeux dans les yeux pour une fois. Mais ce ne sont pas ces images superficielles qui vont effacer le trauma des roses inodores achetées hâtivement, des campagnes marketing ornées de cœurs aux couleurs criardes ou des millions d'annonces imprimées dans les journaux affichées sur les panneaux de Paris. Alors on ne pourra pas changer la règle, la Saint-Valentin est à l'amour ce que la Nouvel An est à la fête. Mais on ne souhaite qu'une chose, que le sentiment amoureux retrouve sa place loin des campagnes de publicité. Alors j'avoue, si je crache autant dessus, c'est peut-être parce qu'on m'a pas offert de bouquet de roses bon marché, mais qu'importe, en couple célib ou aromantique, le 14 février, nous février.
Merci, merci pour ce coup de gueule plein d'amour, vous êtes toujours sur Radio Sorbonne.
Il est 18h18 sur Radio Campus Paris.
Dans la vie, il y a des hauts.
Il y a des bas.
Et maintenant,
place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
L'Europe est-elle prête pour faire la guerre en Ukraine alors que Donald Trump prépare des négociations sans Kiev ni les Européens ? Plusieurs pays dont la France n'écartent pas la possibilité de déployer des soldats sur le territoire ukrainien. Et vous ? Vous seriez prêt à faire la guerre en Ukraine ? Clara est allée poser la question aux étudiants de la Sorbonne.
Alors moi non, je ne serais pas prêt à y aller. Mais par contre, il me semble que ça avait été évoqué, l'envoi de troupes européennes, en tout cas pour garantir un cessez-le-feu. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que...
Casque bleu ?
Ouais, des sortes de casques bleus, mais européens, quoi. Mais ça permettrait un peu de garantir la sécurité. Mais après, ça pose d'autres questions. C'est, par exemple, si un Russe tue un Français qui est en Ukraine, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Force est de constater que, en fait, finalement, ce modèle, le modèle européen, très démocratique et très porté sur l'éthique, il va tomber si il n'y a pas une unité européenne et un minimum de rapport de force.
Mais personnellement, je n'irais pas faire la guerre non plus. Et après, au sujet de l'intérêt que ça a, envoyer des gens qui sont pas formés, je sais pas si c'est un intérêt.
J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on parle de ça. Enfin, c'est pas la première fois que Macron il fait une allusion à ça. Enfin, peut-être c'est la première fois qu'il le fait aussi clairement, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il met en place des aides humaines, en tout cas, enfin, dans le sens où c'est des vrais gens.
La Russie et les États-Unis sans l'Europe, et encore pire que ça sans l'Ukraine, c'est... très grave, ça nie notre souveraineté à nous.
Mais alors, est-ce que vous êtes prêts, vous, à aller faire la guerre ? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ?
Bonsoir. Alors, désolée pour la transition un peu abrupte. Hein, on passe de la Saint-Valentin à la guerre. Mais c'est peut-être aussi l'amour de la patrie, cette fois.
Exactement.
En échangeant avec les étudiants, on a l'air de se retrouver face à un dilemme, de vouloir aider les Ukrainiens et... de défendre effectivement ce qui reste une des valeurs fondamentales de l'Europe. Mais à quoi cela nous mène-t-il ? Un des interviewés m'a parlé de escalation, donc une escalation de la violence. Et concrètement, j'ai l'impression que personne n'est prêt à partir demain au front. Ça paraît assez irréaliste.
Ouais, c'est vrai que ça paraît évident, quoi. Puis surtout, est-ce que vraiment la guerre aujourd'hui, c'est le remède à tout ça ? Enfin, maintenant, il y a des gens qui se battent forcément en Ukraine, mais enfin, je veux dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire autrement ? On a bien vu avec la Première et la Seconde Guerre mondiale et toutes les autres guerres où il y a moins de pays qui étaient involved, mais quand même, à chaque fois, c'est juste trop dramatique, en fait. Donc, autant essayer de faire autrement, quoi.
Moi, je me souviens, il y a 2 semaines, la question de est-ce qu'on est prêt à aller se battre pour son pays ? Je vois mal les gens aller se battre pour un autre pays s'ils ne sont pas prêts à se battre pour le leur, logiquement. Après, c'est un peu paradoxal avec ce que je viens de dire juste avant. Moi, je serais plus prête à aller me battre pour un pays plus oppressé que la France plutôt que pour la France. C'est peut-être pas très bien, mais c'est comme ça. Mais... pardon ?
C'est pas le même genre de bataille aussi.
Exactement.
On parle pas d'une bataille armée de cette ampleur-là en France.
Mais après, oui, c'est vrai que ça fait un peu escalade de la violence. Oui. Est-ce qu'on est obligé de faire la guerre ? Je sais pas. C'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas envie d'aller se battre, parce que ça fait un peu peur.
Flemme.
Ouais, un peu. Flemme. Un petit peu.
Mais moi, je trouve que déjà, Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est des zinzins astronomiques. Ouais. Que totalement. Ce qu'ils font, ça, c'est de l'escalade tout le temps, que j'ai l'impression qu'ils oublient qu'au final on est des humains et que certes il y a des guerres, il y aura toujours des guerres, il y a eu des guerres, mais que il y a peut-être d'autres solutions. Et puis surtout, quand il y a la guerre qui concerne un pays, où il y a un pays qui a été où il y a eu l'invasion de ce pays, que le pays concerné soit même pas dans les discussions pour finir la guerre, je trouve ça absurde. Et si sur la question d'aller se battre, moi je suis d'accord avec Alice qui dit que si déjà on est réticent à aller se battre pour son propre pays, d'aller se battre pour un autre pays, ça peut être compliqué. Après, je suis d'accord aussi qu'il y a des pays qui sont clairement plus en galère que la France. Nous, certes, on a nos problèmes, mais il y a des endroits où il y a la moitié de la population qui n'a pas à manger. Mais sur cette question de partir faire la guerre, je trouve que déjà rien que de se poser la question est-ce que éventuellement j'irai aller faire la guerre, c'est que la situation va trop loin.
Après, faut quand même se dire une chose, c'est que là, donc, mettons, on laisse les territoires occupés en Ukraine par la Russie à Vladimir Poutine, il les garde. En cas de négociation, Donald Trump pourrait très bien lui accorder, on lui dit ok, t'es allé jusque là, tu le gardes, on s'arrête là, un accord de paix est signé et l'Ukraine se retrouve en paix. Qu'est-ce qui empêche Vladimir Poutine dans quelques années de menacer les pays baltes, après de menacer la Pologne et d'envahir ces pays-là ? Parce qu'en fait, c'est ces pays-là qui sont en ligne de front. En fait, à quel moment on y va ? À quel moment est-ce que nous, les Français, on ne se dit pas « Bon, ben, ok, c'est pas chez nous, certes, mais en fait, c'est aussi nos alliés, c'est nos partenaires. » En 1945, c'est quand l'Allemagne a envahi la Pologne que le Royaume-Uni et la France sont entrés en guerre. À quel moment on y va ?
Pardon, je te laisse la parole peut-être. Il y avait surtout la question du « on ». Est-ce qu'on y va ? Oui, mais alors qui ? Parce que c'est pas des gens qui sont sur les bancs de la fac qui certes ont l'âge de se battre, mais qu'on va aller envoyer au front. Il faudrait mettre en place donc un système, une formation militaire, service militaire qui revient, et faire ça avec une vraie planification dans le but effectivement de prévenir une progression impérialiste, on peut le dire, de la Russie. Ça, c'est plutôt pertinent de penser au futur. Qu'est-ce qu'il y aura après l'Ukraine ? Quel territoire sera visé.
En fait, c'est ça, c'est juste... Enfin, je trouve que c'est... Déjà, la violence ne résout pas la violence, et c'est juste une escalade un peu idiote, je trouve. Et en plus de ça, gérer des pays avec des hommes comme Donald Trump et Vladimir Poutine, je trouve ça un peu fou quand on voit ce qui se passe, etc. Mais je pense que de toute façon, la guerre, c'est jamais la solution. Et encore une fois... aller se battre pour un pays qui n'est pas le mien. Moi, personnellement, je ne vois pas trop le faire. Après, je pense que c'est très personnel. Et puis...
Bon, voilà. En fait, vous êtes beaucoup à dire que la guerre n'est pas une solution, mais enfin, ça, c'est une évidence, je pense. Tout le monde pense la même chose à cette table. Mais la question, c'est si demain, l'Ukraine est vraiment, vraiment très, très menacée, est-ce que vous êtes prêt à aller aider l'Ukraine ? Parce que vous parlez de pays qui sont hyper opprimés, mais l'Ukraine est hyper opprimée.
Oui, mais dans ce cas-là, si nous, notre armée française, elle n'est pas assez, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en place le service militaire, parce que si nous, on doit même aller se battre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de, de travail, alors ça veut dire, est-ce qu'il n'y a pas assez de gens pour aller se battre à notre place quand même, mais, enfin, je sais pas. Eux, ils ont eu les formations pour, et comme elle disait Clara tout à l'heure, le temps que nous, on apprenne, qu'on ait déjà le courage d'y aller, etc., enfin, ça va prendre des mois, enfin, beaucoup trop longtemps, en fait, avant d'aller faire la guerre.
Après, c'est aussi la place de la guerre dans le développement d'un pays. Si jamais on remet le service militaire, par exemple, ça veut dire qu'on incite les jeunes à aller faire la guerre. Est-ce que c'est ce que la France veut promouvoir et veut pour la suite? Je sais pas.
Et puis il y a aussi, il y a aussi le contexte d'urgence. Enfin, à l'époque, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils allaient chercher les jeunes chez eux. Ils leur disaient, allez, demain, tu vas à la guerre, quoi.
Et pourquoi est-ce qu'il n'y a plus ça aujourd'hui? Parce que si on en a encore besoin avec l'Ukraine là prochainement.
Ouais. Après, c'était pas pareil, parce que là, la France.
Est-ce qu'on n'a pas été naïf de croire que la guerre ne reviendrait pas?
Moi, je pense. Hein. Là, on se retrouve comme des cons. Enfin, vraiment, je veux dire, si d'ici 2 ans, ça s'empire encore et encore, et qu'il y a besoin de monde.
Oui, alors, je pense que déjà, tout a été dit. Je ne sais pas quoi rajouter. Je sais que j'ai, par exemple, une amie israélienne qui a été forcée de faire le service militaire comme tous les jeunes de son âge, et en fait qui a déserté pratiquement. Et elle a déserté parce que, enfin, a déserté comme à la guerre, mais elle a été rejetée du service parce qu'elle ne se présentait pas, elle ne respectait pas les règles, parce qu'elle ne voulait pas se conformer à cela, parce que c'était pas ses valeurs. Et du coup, c'est vrai que, comme je sais plus qui l'avait dit, c'est aussi les valeurs du pays qui se manifestent dans l'implantation systématique du service militaire. Donc je crois pas que c'est, je crois pas que nous là, je crois pas que les jeunes, on va dire, ou de notre âge ici en France, se diraient réinstallons cela. Mais alors après, s'ils sont forcés, c'est que vraiment la situation, peut-être qu'on était trop naïf. C'est vrai,
si les jeunes ils sont forcés à aller faire la guerre et que juste ils partent et ça pose pas de problème, c'est qu'ils sont pas si forcés que ça.
Si tu veux dire si c'est volontaire.
Oui, c'est ça. Si jamais on te force à partir faire la guerre, que tu dis, bah non, c'est pas trop dans mes valeurs que tu vas dans un autre pays, et que tous les jeunes font ça, bah au final, il n'y a plus de jeunes, donc ça sert à rien de faire ça.
Tu crois que c'est ce qui va arriver dans les faits?
Ah, je sais pas, c'est ce qui va arriver. J'espère que c'est pas ce qui va arriver. J'espère qu'on n'aura pas à réquisitionner tous les jeunes pour partir faire la guerre.
Parce que moi, quand je vois les jeunes ici en Europe, je me dis que la plupart se désisteraient. Mais du coup.
Oui, c'est sûr.
C'est clair.
Tant mieux.
Tant mieux, voilà. Quelque part, tant mieux. Ouais.
Eh ben justement, parlons pas trop de guerre, parlons surtout du nécessaire, les sons. Simbi Ajikawo, c'est l'artiste que vous devez connaître, l'une des meilleures rappeuses contemporaines d'après Kendrick Lamar. Elle se dit influencée par Lauryn Hill et nous sort du rap expérimental. C'est juste la meilleure de sa génération en fait, et je pèse mes mots. Voilà un EP un peu oublié, voilà Rolling Stone de Little Smith. I was in Sao Paulo eating palm heart and I couldn't believe my surroundings. True, I got the ends of me listening to Heady getting gassed in the mountains. No time for the first strap, nigga, I'm quenched, I drink from a different fountain. Hard food when I serve that, all these little fish get fried and your gam get pounded. Might be a brat for a bit. Fuck your blunt, man, I want my spliffs. Want my farm and I want my chicks. Want my suit tailored by Gucci. First class Shibuya for the sushi. Give me my checks and give me my plaques. Want breakdowns and I want my stats. Pronto. Yeah, God flow. Make you wanna dance all day like Alfonso. Wanna talk about peas, wanna talk about wage, but can you do the job though? Can you? I can't vouch for a man that ain't got a talent and business combo. No. It's all a sport. Flow on archery, don't get hit with the crossbow. Stay to myself, been true to the core. I was always the illest, there's never been no cure. No medication. Calling shots like a calling favors, facts. My niggas got me if I ever need that. Still there's things I'm faced with, storms ain't lying and it's fools audacious. Might demonstrate frustration, trying to keep cool but I'm losing patience. No cap, we hate snakes and we hate rats. You can have opinions, just don't mislead the youth in your raps.
C'était Little Smith sur Cours d'honneur, qui n'est plus un jeune talent à suivre, mais une grande voix de la musique anglaise, comme le décrit la presse française.
Et en parlant de presse, restez avec nous, car ce soir, nous recevons Marianne Boula, directrice des marques du groupe de presse Les Échos Le Parisien.
Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Ce soir, nous recevons Marianne Boula, directrice des marques au sein de la direction de communication du groupe Les Échos Le Parisien. Bonjour et merci d'être avec nous ce soir.
Grand plaisir.
On le sait, hein, Le Parisien est l'un des quotidiens régionaux les plus vendus en France, alors que Les Échos, eux, envisagent ou du moins réfléchissent à l'idée d'arrêter leur édition papier. Est-ce que le papier a un avenir face à la domination du numérique ?
Alors oui, je pense qu'il faut réfléchir aux différents formats papier qui existent. Quand on se balade dans les rues, on voit encore des librairies absolument partout. Le marché du livre fonctionne finalement assez bien, malgré la crise qui avait été annoncée. Je pense que c'est à la fois une question de narration, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui une multitude de formats qui existent, et donc dans l'usage qu'on peut avoir du papier, c'est effectivement plus le quotidien qu'on allait acheter au kiosque. Ça, je pense que voilà, dans un avenir proche, on a une vraie transformation là-dessus. En revanche, d'avoir des formats papier au long cours qu'on a plaisir à lire, voire à garder, à conserver, à offrir, donc plus des formats, on voit les par exemple des MOOC, donc le mix entre magazine et livre, pourquoi pas des formats très éditorialisés, des formats aussi très avec de l'illustration, avec de l'infographie, avec de la BD, pourquoi pas, etc. Et puis il faut quand même avoir en tête qu'il y a un modèle économique qui est associé au papier, donc on peut être aussi sur des formats qui soit sans pub, ou au contraire avec de la pub, avec d'autres narrations publicitaires. Ça reste un écrin aussi qui est important pour certaines marques. Le papier a un côté statutaire encore pour le moment. Donc voilà, selon les médias qui utilisent le papier, on s'en sert, on va le faire évoluer, pour certains s'en affranchir, mais je pense qu'il y a quand même un avenir pour le papier.
Et à l'inverse justement du papier, on a les réseaux sociaux avec lesquels les médias ne cessent de se réinventer grâce au format vidéo, au podcast par exemple. Est-ce qu'on peut créer de la valeur avec de l'information gratuite sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'on doit forcément miser sur l'abonnement et la fidélisation ?
Je pense que c'est pas antinomique, c'est-à-dire que la vidéo, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux peut être un produit d'appel pour ensuite rentrer dans l'univers du média. Le Parisien notamment l'a vraiment développé, son offre vidéo, et continue de vraiment éditorialiser avec différents formats vidéo. C'est un teasing, vous verrez en 2025, il va se passer plein de choses sur la vidéo du Parisien, mais ça permet de rentrer dans les contenus, et ensuite on commence à s'attacher à l'identité de marque, etc. Et on peut aller plus loin, et quand on s'abonne, on peut avoir d'autres contenus en plus. Et c'est des formats, ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire qu'il y a une partie free, et puis quand on veut vraiment approfondir, rentrer dans l'univers, on passe sur du payant.
C'est pour ça que quand on va par exemple sur le site du Parisien ou de quelconque journal, on a on a l'accès à certains articles mais pas d'autres.
Oui, exactement. D'accord. Pareil pour les newsletters, c'est un peu des produits d'appel, c'est-à-dire que voilà, on va avoir un contenu et puis si vous voulez creuser, vous pouvez. Et on voit que on est dans ce qu'on appelle le snack content. On voit bien, enfin vous en avez peut-être l'usage aussi, c'est qu'on pioche du contenu à gauche, à droite. Effectivement, on swipe en permanence sur les réseaux sociaux, on prend des petits morceaux et tout. Si on veut creuser, approfondir un sujet, on va aussi vers des médias qui font payer leur information, parce que derrière c'est des équipes, c'est des travaux de journalistes et ça a une valeur.
Et entre la montée du numérique et la défiance du public envers certains médias traditionnels dont le Parisien, comment vous imaginez-vous la presse dans 10 ans ?
Alors je trouve qu'aujourd'hui on emploie encore des mots, la presse, la télé, la radio, on cloisonne encore beaucoup. Je pense que ça n'a plus vraiment de sens, parce que quand on regarde aujourd'hui, la radio, ils font aussi, ils ont d'autres déclinaisons de formats. Oui. Sur la télé, c'est pareil. On voit bien qu'on n'utilise plus du tout le rapport à la télé. C'est que de la consommation sur les plateformes. Plus du tout la télé en direct. Enfin, je ne sais pas si vous regardez beaucoup à 20h votre JT,
oui,
comme
non,
les parents,
que...
les grands-parents.
Oui.
Non. Donc c'est une autre consommation. Et sur la presse, c'est la même chose. On a à la fois, oui, certes, un côté papier, mais vraiment du digital. On a des sites. Enfin, donc ça, je pense que ça va complètement éclaté. On est sur une hybridation complète des formats et voilà, on reste encore dans des métiers très identifiés. Pour l'instant, c'est très français aussi. La presse française a une vraie histoire. On a des journaux qui datent pour la plupart juste de l'après-guerre. Enfin, donc, c'est encore très, très présent, mais c'est en train de voler en éclats. Et c'est aussi, moi, ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est d'être là pour accompagner cette transformation.
Vous avez étudié au CELSA, vous êtes une alumna du CELSA. Vous avez effectué un master en communication et management des médias. Et durant ces années-là, vous avez été rédactrice en chef de la revue étudiante et feuillage. Est-ce que cette expérience a été un déclic ? Est-ce que ça a été une influence pour la suite de votre parcours ?
Alors un déclic peut-être pas, parce que moi j'ai toujours eu cet attrait pour le journalisme, pour l'écrit, sans en avoir forcément les capacités. Donc j'ai toujours travaillé aux côtés des journalistes et de valoriser leur travail. Mais donc là je passais un peu de l'autre côté et c'était une expérience très très intéressante, parce qu'on comprend tous les métiers qui interviennent dans la création d'un média. On voit un peu comment tout ça interagit, et toutes les contraintes aussi, de travailler sous contraintes, c'est toujours très intéressant. Et donc oui, ça m'a permis d'accélérer peut-être la suite, de faire des choix, et en tout cas l'objet papier, on revient à la première question, c'est pour le coup, mes exemplaires des feuillages, je les ai gardés, et
c'est symbolique.
Ouais, c'est symbolique, et c'est un vrai objet aussi qui est travaillé graphiquement, et ça je trouve que c'est super intéressant. Ça peut être aussi un lien beaucoup plus artistique dans la manière dont on choisit ses mots, on les oriente. Le digital, c'est open bar, donc c'est un autre format, et j'aime beaucoup.
Est-ce que je peux vous poser la question, pourquoi vous avez choisi justement la communication plutôt que le journalisme ?
L'étymologie du mot communication, c'est mettre en commun. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est d'être un peu l'interface entre plein d'autres métiers, plein de services, et d'être au contact en permanence avec les journalistes, avec nos rédactions, mais d'aborder plein de sujets différents. Moi, je suis quelqu'un qui aime... Moi, je suis assez curieuse de nature, j'aime travailler en équipe et tout, donc de passer d'un métier à l'autre, d'un média à l'autre, parce que le groupe Les Échos Parisiens, c'est pas que Les Échos et le Parisien, c'est 36 marques, donc on est sur plein de sujets tout le temps, et donc j'ai aucune journée qui se ressemble. Là, ce matin, j'ai eu peut-être 5 réunions sur 5 médias différents, et puis après, plein d'autres points entre, mais du coup, c'est d'être tout le temps aux confins de tout ce qui va se passer dans le groupe, et ça, je trouve ça hyper intéressant.
En parlant de différents médias, après le CLSA, vous avez travaillé aussi bien dans l'audiovisuel chez Canal+, que dans la presse écrite au sein du Nouvel Obs et de Challenge. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en passant de l'un à l'autre ? Est-ce que c'est deux mondes qui s'opposent ou c'est deux mondes complémentaires ?
C'est complémentaire, je ne pense pas qu'ils s'opposent. Après, ils ont chacun des codes très marqués, les codes de la télé, alors surtout chez Canal. Hein, bon, c'était déjà la fin de l'esprit Canal, mais il y a encore un esprit un petit peu Canal. Ils viennent de fêter leurs 40 ans, c'est pas rien. Et puis après, dans les journaux dans lesquels j'étais, c'était que des médias très instaurés aussi. Hein, donc c'est pareil, les codes de journaliste, du journalisme de presse, avec des engagements aussi politiques. Enfin bref, c'est complémentaire. Et puis dans les narrations, une fois de plus, on voit bien que ça évolue de plus en plus, et que ce soit Love, Challenge, etc. Ils se sont développés beaucoup aussi sur le digital, sur la vidéo, et finalement les codes de chacun sont en train de se croiser, et on se nourrit des codes des uns et des autres. La presse se met à faire de la vidéo et de la télé, du podcast, donc de la radio, enfin tout s'entremêle, et c'était le point de tout à l'heure, de se dire que voilà, la presse, la radio, la télé, de manière très silotée comme ça, est en train de bouger. Mais il y a encore, quand on rentre dans les rédactions, on le voit bien, c'est encore assez marqué.
Le Parisien a cette capacité à faire l'info, à dénicher des sujets, à lancer des tendances avec ses baromètres. Dans un environnement où tout le monde génère du contenu, comment maintenir cette position de leader, de continuer d'être une référence ?
Je pense que ce qui fait la force du Parisien, c'est d'avoir une rédaction avec des centaines de journalistes. Et c'est la force du collectif, et de se dire que voilà, y a toute une machine qui est mise autour, avec des métiers, des expertises. Au-delà du journaliste, il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a tous les services de vérification de l'info. Bon, ça, c'est le propre du travail du journaliste. Mais il y a aussi tous les services techniques, artistiques, tous les métiers du marketing. Comment on va, une fois qu'on a préparé un contenu, le mettre en avant, on va séquencer. Est-ce que justement, on le met sur le print, sur le digital, on l'appuie en communication. On va le pousser, on va être dans les formats newsletter, vidéo, réseaux sociaux. Enfin, c'est cette force-là, c'est d'être une rédaction, c'est d'avoir une expertise métier. On ne s'improvise pas journaliste, hein, vous le savez tous autour de cette table. Et donc voilà, c'est un vrai job, et on finit toujours par le reconnaître. Quand on est en tant que lecteur, que spectateur, on voit bien, on peut faire la différence entre un travail qui est sérieux, où on a pris le temps de vérifier, de voir ses sources, etc. Donc voilà, et de faire partie d'une équipe, c'est essentiel.
Mais non, c'est principalement dû au collectif.
C'est un des points clés.
Et selon vous, est-ce qu'il y a des erreurs que les grands groupes de presse doivent éviter, justement pour ne pas disparaître ?
Il y a un paradoxe, c'est que les grands groupes de presse, il y a à la fois le côté... la lenteur du changement, parce que c'est des grosses machines, il faut faire bouger les choses, mais bon, il y a parfois des vents contraires, c'est pas simple, on est souvent lié à un actionnaire aussi, donc le rôle de l'actionnariat est pas toujours évident. Et en même temps, on a aussi la force de frappe pour tester des choses, pour acquérir des logiciels, pour avoir des expertises métiers, se payer aussi. Bah là, on voit bien chez nous, c'est tous les services de data, c'est tout le. On a pris des expertises, des data engineers, etc., qui viennent nous rejoindre. Ça, on ne peut pas se le permettre quand on est dans des microstructures. Et donc, on a aussi envie de tester plein de choses. Et le paradoxe, c'est de ne pas non plus s'engouffrer dans l'espèce de frénésie d'aller tester toutes les nouveautés et tout. Non, il y a un moment, il faut avoir sa stratégie, il faut la tenir un petit peu dans le temps pour qu'on puisse voir les résultats. Là, ce que je vous évoquais sur la stratégie vidéo du Parisien, elle est travaillée depuis des années, et là, ça y est, on est vraiment sur des super scores. Enfin, c'est impressionnant, les audiences vidéo, mais c'est un travail de fond, c'est une course de fond, c'est un marathon, c'est pas allez hop, je fais ça, puis je fais ça. Non, on se tient aussi. Après, il faut avoir la capacité d'être quand même agile et de s'adapter, parce que ça change très très vite. Donc, il faut être à l'affût, et là aussi, on a des équipes qui vont, là, pour les échos, on a été faire un peu une Learn Expedition à New York pour voir un peu les médias américains. On considère quand même encore que les États-Unis ont quelques années d'avance. Alors, on verra sous Trump, et ça revient au débat d'après, je préfère pas trop y penser. Mais en tout cas, voilà, sur le New York Times et tout, il y a plein de leçons aussi à retenir dans l'écriture médiatique, dans le fonctionnement, dans la digitalisation. Et on en tire des enseignements qui sont très pertinents dans notre manière d'avancer. Et ça, c'est très chouette aussi de voir qu'on a cette souplesse quand même de bouger.
Alors, vous le savez peut-être ou pas, Radio Sorbonne a célébré ses 10 ans la semaine dernière avec la délinéarisation que vous nous promettez. Ça veut dire quoi, l'avenir de Radio Sorbonne? C'est le cross-média radio-TV?
Ah, pourquoi pas, c'est une super question. À vous d'innover peut-être sur certains formats. Alors, c'est marrant parce que c'était mon sujet d'entrée au concours du CELSA.
Ah oui,
de
d'accord.
Se dire, est-ce que la radio doit être filmée? Parce qu'on le voit aujourd'hui.
Oui, j'ai France Inter radio, d'ailleurs, voilà, oui, la matinale. Très filmé. Oui.
Donc, il faudrait que je retrouve ma copie pour vous dire. J'ai réussi à rentrer. Non, il n'y a pas forcément. C'est pas parce que on a choisi un type de format qu'on est obligé de le décliner sur tous les autres. Donc, pas forcément, il faut qu'il y ait une vraie logique derrière. Et vous, quel serait votre intérêt d'être filmé? Je pense que pour certains formats, ça peut être chouette. Ça peut vous permettre de donner aussi une vitrine de votre travail sur les réseaux sociaux, qui sont par essence un lieu où on utilise vraiment l'image, la vidéo. Pourquoi pas? Ça peut vous permettre aussi d'avoir une accroche et de conserver par ailleurs vos formats audio.
L'interview touche malheureusement à sa fin, mais sur cours d'honneur, aucun invité n'échappe à notre question emblématique. Que représente la Sorbonne pour vous?
L'excellence à la française, je dirais. C'est
pas rien.
Ouais, c'est pas rien, et dans un monde dans lequel on est, c'est la démocratie surtout.
Un grand merci Marianne Boula pour ces mots. Merci d'avoir été avec nous ce soir pour cet échange passionnant. Vous avez pu nous faire part de votre parcours et de votre vision sur l'état et l'avenir de la presse. Chers auditeurs, restez avec nous. L'émission n'est pas finie.
Et dis-moi, sinon Chérine, t'es droite ou t'es de gauche?
Et toi, t'es beauf ou beau bout de Paris?
Allez, à cette question, place à la chanson.
Et c'est Stromae, icône de la scène belge, qui vient faire vibrer les ondes avec son titre très explicite.
Bâtard sur cours d'honneur.
Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi ni l'un ni l'autre, je suis, j'étais. Et resterai moi.
T'es de droite ou t'es de gauche? T'es beauf ou bobo de Paris? Soit t'es l'un ou soit t'es l'autre. T'es un homme ou bien tu péris? Cultrice ou pathéticienne? Féministe ou la ferme, soit t'es macho, soit homo, mais t'es phobe ou sexuel, mécréant ou terroriste, t'es veuch ou bien t'es barbu, conspirationniste, illuminati, mythomaniste ou vendu, rien du tout, ou tout de suite, du tout au tout, indécis, tu changes d'avis, imbécile, mais t'es où tout si, flamand ou allon, bras ballant ou bras long, finalement t'es raciste, mais t'es blanc ou bien t'es marron, hein? Le bâtard tu es, tu l'étais, tu le restes. Pardon, monsieur ne prend pas parti. Monsieur n'est même pas raciste, vu que monsieur n'a pas de racines. D'ailleurs, monsieur a un ami noir, et même un ami arien. Monsieur est mieux que tout ça. D'ailleurs, tout ça, ça ne sert à rien. Et mieux vaut ne rien faire que de faire mal. Les mains dans la merde ou bien dans les annales. Trou du cul ou bien nombril du monde. Monsieur, c'est la fête plus haut que son trou de balle. Surtout pas de coup de gueule, faut être calme, hein. Faut
faut être calme, hein. Faut être dans le coup, faut être franchouille, faut être bien vu partout, hein. Ni l'un ni l'autre, le bâtard tu es. Tu l'étais, tu le restes. Tu l'étais et tu le restes. Ni l'un ni l'autre, bâtard tu es. Tu l'étais et tu le restes.
C'était Stromae et son album Racine Carrée sorti il y a 12 ans. La chanson est peut-être fun hein, avec ses airs d'électro, mais les paroles le sont beaucoup moins. Hein. Le chanteur parle de sexisme, d'homophobie et de racisme. Malheureusement, pas de concert à venir pour Stromae.
C'est pas vrai.
Et non, il ne sera pas sous le soleil du Solidize ni de Rank en scène, mais heureusement, Elias est là pour nous remonter le moral et nous apporter un peu de vitamine D.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table !
Il fait beau ces jours-ci à Paris, le soleil est de sortie, mais va-t-il rester tout de suite ? La météo avec Elias.
Et bonsoir, le temps est resté couvert sur la France comme prévu avec des rafales de vent allant jusqu'à... Désolé, j'ai pris la première feuille que j'ai trouvée en arrivant. Bon, je vais laisser la météo à Louis Baudin qui le fait bien mieux que moi. Mais ce que je fais mieux que lui, par contre, c'est vous dénicher des bons petits restos pour y manger chaque repas de la journée. Une sorte de rallye resto avec 4 heures de pause à chaque fois. Et parce que oui, le petit-déj, c'est bien un repas. Pour commencer en douceur, rendez-vous rue des Batignolles, au métro Rome, ligne 2, au Café des Petits Frères. Tenu par 35 bénévoles qui assurent le service et la bonne ambiance, cet établissement, ouvert en 1997, propose des boissons chaudes, un tarif très abordable. Le café y est à 50 centimes et un petit déjeuner complet avec tartines, croissants, jus d'orange et boissons chaudes vous sera servi pour 1,80€. Et après 4 heures de cours matinaux, trop simple de vous conseiller le Crous et ses repas à 1€ bientôt ouverts à tous les étudiants. On enchaîne dans le 9e arrondissement de notre belle capitale, chez Maoz. Ils y proposent des falafels délicieux accompagnés d'un bar à salade en libre service. Un sandwich falafel vous coûtera moins de 5€ et vous pourrez le garnir à votre guise avec une variété de légumes frais et de sauces. Par contre, si jamais vous comptez oublier vos problèmes dans le gras, je vous conseille celui qui est selon moi le meilleur kebab de Paris sans aucune hésitation, le Melody. Je le conseillais à Swan et Alice qui mouraient de faim après notre émission à Malesherbes, et en plus c'est juste à côté de la gare Saint-Lazare. Malheureusement, le temps du bon vieux grec frit de boisson à 5€ est terminé et je suis le premier à le regretter. Mais chez Melody, pour 8€, vous avez un plat simple mais savoureux, où de la viande rôtie à la broche se mêle à des légumes frais, une sauce crémeuse ou épicée, le tout enveloppé dans un pain chaud. En bref, un équilibre parfait de texture et de saveur qui saura réjouir vos papilles. Enfin, grec, quoi. Après 4 heures de cours dans la seule fac où a eu lieu la guerre des confettis, je vous laisse faire vos petites recherches, une envie vous prend soudainement d'un goûter savoureux sans casser votre tirelire. Faites donc un tour à Utopie dans le 11e arrondissement, au 20 rue Jean-Pierre Timbaud. Cette boulangerie est réputée pour ses créations originales, comme le pain au charbon, végétal ou le roulé au sésame noir. Pour seulement 2,50€, vous pouvez déguster une viennoiserie fraîche et les pâtisseries ajoutent encore à la tentation. Pour compléter, un chocolat chaud maison à 2€ est l'accompagnement parfait. Une adresse idéale pour un goûter sucré et copieux. Enfin, pour finir la journée en beauté, un dîner généreux à petit prix, Bouillon Pigalle est le bon plan à Paris. On y déguste des plats traditionnels français comme le bœuf bourguignon ou le gratin dauphinois à partir de 5€. Le tout dans une ambiance chaleureuse et un cadre parisien rétro. Vous pouvez repartir le ventre plein sans dépasser 10€. Un excellent rapport qualité-prix pour un dîner convivial. Paris n'a pas fini de nous surprendre, mais vous avez maintenant de quoi vous surprendre, vous et vos amis, à tout moment de la journée. Ou même toute la journée, je vous comprends, faut bien rentrer le pass Navigo au doux prix de 89€ par mois. Merci Madame Pécresse. Sur ce, je vous laisse l'eau à la bouche. Il faut que j'aille acheter des brousses au marché du Cours Julien avec nos amis les Jobastres. À très vite.
Merci Elias, merci, tu nous as donné l'eau à la bouche, mais t'as oublié de préciser que devant le bouillon Pigalle, il y a toujours une queue immense à n'importe quel moment de la journée.
Mais parce qu'en fait, il faut pas y aller à l'heure de manger, il faut y aller avant de manger.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il faut y aller à 18h pour manger. Ou alors il faut à 19h.
Ouais. Ou alors dans un autre bouillon, parce qu'il y en a plein.
C'est vrai, le bouillon, ils sont pas aussi bons. Bouillon de partout.
C'est vrai que le bouillon Pigalle...
Il n'y a qu'à Pigalle qui a des bons cuistots.
En plus, quand on sort, on tourne la tête et bam, qu'est-ce qu'il y a en face de nous? Le Sacré-Cœur.
Absolument. Voilà.
Il y a aussi le cinéma à l'Atlas, mais vous comprendrez quand vous serez un peu plus âgé.
Non, mais alors là,
qu'est-ce qu'il veut, le boomer?
Reste à mixer, là, plutôt que de nous rappeler que t'as 10 ans de plus que nous, s'il te plaît.
C'est quoi être étudiant à la Sorbonne?
Étudiant, Thomas. C'est la question à laquelle on répond à cours d'honneur.
Vous êtes toujours sur Radio Sorbonne, la radio étudiante qui fait le tour de la fac et de ses campus.
Et il est 18h52 sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, on adore parler des personnages illustres passés par la Sorbonne. Et ce soir, c'est une grande icône du swag qui s'invite sur ses bancs.
On prend la direction de la Sorbonne en personne.
À présent, Ellie va nous parler mode, un sujet qui lui tient à cœur. C'est pourquoi elle va nous présenter aujourd'hui la seule et l'unique reine de la mode parisienne, celle qui fait la pluie et le beau temps dans la Paris Fashion Week et qui connaît personnellement les plus grandes personnalités de la mode, mais pas que.
Rebonjour, c'est donc moi, votre nouvelle chroniqueuse Ellie qui vous parle. Et oui, il est vrai, je vais vous parler de la personne qui a fait que je suis ici aujourd'hui, Eugénie Trochu. C'est l'ancienne rédactrice en chef du magazine Vogue France, rien que ça. Parce que oui, je suis peut-être une étudiante à la Sorbonne, mais je suis avant tout une fashion, comme on dit. Donc quoi de mieux que de mélanger mes études à ma passion.
C'est la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion !
Il y a 2 ans de cela, dans ma province natale, je devais choisir mes vœux Parcoursup, et c'est lors d'une conférence avec Eugénie Trochu, donc, que j'ai découvert la licence qui m'a amenée à la Sorbonne. Fou, non ? Mais vous vous demandez sûrement, c'est qui Eugénie Trochu ?
Salut Vogue, je m'appelle Eugénie, je travaille chez Vogue. Bienvenue chez moi, ici dans cet appartement.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un peu la girl boss du journaliste de mode en France. Depuis 2021, elle est aux commandes du contenu éditorial de Vogue France, où elle décide de la ligne artistique, des sujets à traiter et de la manière dont le magazine évolue. En gros, elle est la chef d'orchestre de ce temple du style, et autant dire qu'elle connaît la partition par cœur. Mais avant de décrocher ce poste ultra prestigieux, elle a quitté sa région de Normandie en 2005 pour Paris, où elle étudiera à la Sorbonne, comme vous et moi actuellement. Elle étudiera pendant 5 ans dans la licence Lettres Modernes, toujours existante aujourd'hui d'ailleurs. Elle a donc, comme nous, étudié les plus grands classiques de la littérature, analysé les extraits les plus intéressants dans l'Amphi Richelieu. Lors de sa conférence à laquelle j'ai donc pu assister, elle disait avoir un goût certain pour le théâtre et le cinéma. C'est donc pourquoi elle participait au cours de théâtre pendant ses premières années d'études.
Ici, c'est une affiche d'un film, enfin d'un de mes films préférés, qui est Cléo de 5 à sec d'Agnès Verda, que j'aime pour son approche féministe et pour son personnage très fort.
Je crois que d'ailleurs, certaines d'entre nous suivent également ses cours, n'est-ce pas, Swan? Peut-être que tu es la future reine du style français, qui sait. Après, je t'avoue que j'ai pas très envie que tu me voles mon futur job, mais je veux bien partager. C'est bien parce que c'est toi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce passage à la Sorbonne et son quartier, avec ses musées et bibliothèques qu'elle avait l'habitude de fréquenter et forger sa culture, a véritablement forgé la culture artistique de notre fashion Eugénie. Elle a ensuite gravi les échelons avec patience et détermination. Toujours grâce à la Sorbonne et au travail acharné de l'étudiante qu'elle était, elle décrocha son premier stage chez Vogue US en 2010, puis très vite tout s'est enchaîné. Elle a ensuite été embauchée en 2011 par le magazine Vogue Paris, appelé aujourd'hui Vogue France, et a commencé comme journaliste mode, puis est devenue rédactrice senior avant de prendre la tête du digital. Ce parcours, c'est la preuve qu'elle sait de quoi elle parle quand il s'agit de mode et d'évolution du journalisme dans un monde ultra connecté. C'est quoi son talent ? Savoir repérer les tendances avant tout le monde et les raconter avec une touche moderne et accessible, en étant une des premières, par exemple, à ramener la mode des années 60s, que personnellement, j'adore. Sur son compte Instagram, elle partage avec nous les coulisses, son quotidien, entre rendez-vous professionnels, voyages, défilés et moments plus personnels. Ce qui plaît à ses abonnés, c'est son style effortless mais toujours pointu avec un esprit rétro et son regard affûté sur l'industrie. Eugénie Trochu, c'est le mix parfait entre l'élégance parisienne et une vision hyper actuelle de la mode qu'on adore.
Slay ! Slay !
Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est son engagement pour une mode plus inclusive et plus diverse, avec par exemple pour son premier numéro de novembre 2021, Aya Nakamura en couverture. Oh, y a pas moyen, sous sa direction, Vogue France évolue avec son temps, mettant en avant de nouveaux visages, de nouvelles histoires et une façon plus authentique d'aborder la mode. elle prouve qu'un magazine iconique peut rester fidèle à son héritage tout en étant résolument tourné vers l'avenir. Bref, Eugénie Trochu, c'est LA femme à suivre pour être à la pointe du style et comprendre les coulisses de l'industrie. Un regard inspirant, une plume affûtée et une passion pour la mode qui se ressent dans tout ce qu'elle fait. Elle vient de quitter la direction de Vogue France, mais on attend la suite avec impatience.
Merci Ellie pour cette première chronique sur les bancs de cours d'honneur. À présent, mettons un peu de musique dans ce studio Mossad et c'est avec Charlotte Cardin qu'on va monter le volume. Ce morceau Feel Good, sorti en 2023, s'est fait connaître un an et demi après sa sortie. Une bonne leçon de persévérance.
Je comprendrai jamais pyramide. Et j'ai pensé tomber contre toi, italique. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour. Et plus je me sens à l'aise, ironique. Et j'ai pensé mourir avec toi, cyanide. J'entends toujours le son de ta voix qui m'invite, mon amour.
C'était Feel Good de Charlotte Cardin, un titre pop aux accents d'électro qui a refait surface après son passage à Starac. Cette émission a finalement du bon ou pas. Mais c'est surtout aux victoires de la musique qu'on entend parler d'elle pour son single victorieux aux côtés de son lover Alosha Schneider, Ensemble.
Décidément, Swan, le thème de l'amour est partout, ouais. Dans les prix musicaux, les pubs, dans la rue et même dans les anecdotes.
Effectivement, Chérine, surtout dans les anecdotes et c'est Alice qui s'en charge pour la chronique pavée.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il brûle parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils ne viennent pas.
On continue dans la lancée du romantisme, chers auditeurs. Il est parti le petit Love Train et vous êtes tous embarqués dedans. Alors vous, les adeptes de la Saint-Valentin, ne nous quittez pas. Et vous, les amoureux de l'amour, installez-vous confortablement pour une anecdote insolite de la Sorbonne. Et ce soir, c'est Alice qui vous a préparé une belle brochette d'amoureux mielleux avec 5 des couples les plus famous de la Sorbonne et de ses quartiers.
D'abord, à m'excuser, cher auditeur, si votre célibat vous fait souffrir et que vous êtes du genre à accélérer le pas pour dépasser les couples d'étudiants qui se lèchent le visage au tournant d'un couloir un peu paumé de la Sorbonne. Je vais sûrement enfoncer le couteau dans la plaie avec cette chronique. Il est encore temps de mettre sur pause si vous voulez, mais je ne le vous conseille pas. Après tout, je l'ai préparé pour vous, rien que pour vous, cette chronique, avec beaucoup d'amour. Et puis, le plus dur est passé, la Saint-Valentin est finie. Mais n'oublions pas que Paris reste la ville de l'amour et que la Sorbonne en est un de ses plus grands théâtres. Allez, c'est parti pour 5 des couples les plus célèbres de la Sorbonne. On s'accroche à son siège et son sac à vomi, ça s'annonce sirupeux. Ah, Pierre et Marie Curie, sûrement le couple qui vous parlera le plus aujourd'hui, malgré un amour qui n'aura duré que 12 ans. Ils s'unissent un an après leur rencontre. Pierre est alors enseignant à l'école de physique. Marie est étudiante à la Sorbonne. Les époux travailleront ensemble. Avec Pierre, ils découvrent le polonium et le radium, deux éléments radioactifs, et fonderont l'Institut Curie, premier centre français de recherche et de lutte contre le cancer. Ils se partagent également avec Henri Becquerel le prix Nobel de physique. Pierre meurt accidentellement en 1906, laissant tragiquement alors derrière lui Marie, seule avec leurs deux jeunes filles, Ève et Irène. Marie partira rejoindre son cher et tendre presque 30 ans plus tard, en 1934, des suites d'une leucémie. A single mom who works two jobs, who loves her kids and never stops, with gentle hands and the heart of a fighter. Irène qui suit les traces de sa mère. Elle côtoie la Sorbonne depuis son plus jeune âge grâce à l'enseignement de sa mère et d'autres universitaires. La jeune Irène grandit baignée dans les sciences et aide même sa mère au front durant la guerre. En 1920, munie de ses diplômes de mathématiques, physique et chimie, Irène devient assistante de sa mère à l'Institut du Radium, rattaché à la Faculté des sciences. Et puis en 1924, un jeune homme nommé Frédéric Joliot débarque. Il vient d'être nommé préparateur. Et il a un peu du mal à apprécier la fille de la patronne. Alors la patronne, c'est Marie Curie et sa fille, eh bien, c'est Irène. Pourtant, ils se marieront presque quelques mois plus tard. Effectivement, il se pourrait bien qu'Irène lui ait fait changer d'avis assez rapidement. Rapidement finalement, on articule. Ensemble, ils mèneront des travaux et des recherches qui les mèneront à la découverte de la radioactivité artificielle. Décidément, une histoire d'amour explosive.
Toi, tu te bats mieux que moi, c'est très bien. Moi, j'ai des connaissances en chimie que t'as pas, ok? Frappe-moi, je t'empoisonne.
Amants emblématiques du XXe siècle, Simone et Jean se sont rencontrés dans les amphis de la Sorbonne dans les années 20. Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Avant de majorer tous les deux, haut la main de l'agrégation de philosophie en 1929. Ils resteront inséparables pendant 50 ans, sans jamais se marier. Sartre ne peut se concevoir sans Beauvoir, ni Beauvoir sans Sartre, a cependant déclaré Jean-Paul Sartre. Malheureusement, même si la romancière et le philosophe étaient connus pour leurs idées et leurs combats ayant marqué leur temps, ils sont également connus pour leur couple très ouvert, surtout aux très très jeunes gens et leur mobilisation en faveur de la dépénalisation de la pédophilie en 1977. Comme quoi, qui se ressemble, s'assemble. À vous de voir, cher auditeur, s'il est judicieux de séparer l'homme de l'artiste. Mais je pense quand même que peut-être, il aurait été judicieux d'au moins les séparer ces deux-là, je dis rien. Ça leur aurait peut-être fait du bien de concevoir Sartre sans Beauvoir et Beauvoir sans Sartre.
J'ai pas fait.
Trop dégueulasse! Trop dégueulasse! Et puni!
Voici un couple d'artistes moins problématique, mais tout aussi emblématique, celui de Louis Aragon et Elsa Triolet. L'histoire d'amour passionnée et résistante, bien que tumultueuse. Ils se rencontrent en 1928, leur attirance est mutuelle et immédiate, leur amour et leur complicité intellectuelle en fera un couple inséparable pendant 50 ans. Ensemble, ils auront fréquenté les amphithéâtres de la Sorbonne, ils se seront engagés activement dans la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale, à travers leurs plumes afin de dénoncer l'occupation allemande et de lutter contre le nazisme. Après la guerre, ils continueront de militer pour la liberté et la justice, et participent activement à la création du Parti communiste français. Leur amour puissant a été le moteur de leur lutte en faveur de la liberté et de la dignité humaine.
Grenade, ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention, les jeunes. Eh oui, c'est la révolution.
Enfin, je conclus cette chronique sirupeuse par le sirupeux couple d'Héloïse et Alibar. Mythiques amants médiévaux du XIIe siècle, les rues de Paris se souviennent encore de leur amour mythique qui a tant inspiré l'art et la culture. Je n'ai pas dit couleur de la Sorbonne, car à l'époque, la Sorbonne que nous connaissons n'existait pas encore, mais ils se tournèrent autour pour la première fois devant Notre-Dame. Alibar voyait souvent Héloïse traîner sur le parvis de la cathédrale, il la trouve à ma foi fort charmante. Ils fanèrent tout comme les amants sorbonnesques actuels, dans les quartiers de la montagne Sainte-Geneviève, incontournable du romantisme pour les étudiants sentimentaux médiévaux, il faut croire. Bon, après, ça tourne un peu plus tragique, ils s'enfuient ensemble en Bretagne, leur amour étant interdit, se marient en secret et se résignent tous deux à rentrer dans les ordres où ils finiront leur vie. Néanmoins, ils ne s'oublièrent jamais et s'écrivirent des lettres d'amour enflammées jusqu'à la fin.
Longue vie aux amoureux !
Longue vie aux amoureux !
Glu, 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 glu.
Et bien voilà, le petit train du love est enfin arrivé en gare. Vous avez été courageux, mes chers auditeurs. Et je suis sûre que vous avez quand même pris du bon temps à écouter ces histoires, pour la plupart, de nos amoureux phares de la Sorbonne. Et n'oubliez pas, l'amour est partout. Love is everywhere. Cool d'honneur vous aime. Et oui, vous qui nous écoutez fidèlement un mercredi sur deux, et son petit secret à court d'honneur, c'est que sa plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Oh là là, c'était beau ces derniers mots. Merci Alice pour cette belle chronique pavée. Vous êtes toujours dans Cours d'honneur sur Radio Campus Paris.
Vous le savez, dans Cours d'honneur, on aime vous balader dans notre quartier, le 5e, sur la rive gauche où l'on pense.
Plutôt que sur la rive droite où l'on dépense.
Mais aussi vous balader dans notre fac et ses campus.
Et c'est maintenant l'heure de la carte postale.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
Cours d'honneur ne peut décidément vraiment pas se délaisser de Richelieu. Pile une semaine après, voilà que l'équipe Cours d'honneur vous propose de retourner de nouveau dans cet amphi emblématique. Cette fois, c'est Lavinia qui nous y emmène pour nous en proposer une visite guidée auditive.
Bonjour, je m'appelle Fatima, j'ai 20 ans, je suis en 3e année de licence d'histoire à la Sorbonne Université et je suis actuellement dans l'amphithéâtre Richelieu avec mes amis pour filmer des rushs pour le club de cinéma. Alors, on entend des bruits en fond. Ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des élèves. Nous ne sommes pas en plein cours. Ce sont mes camarades qui sont en train de s'organiser pour créer les rushs. Mais imaginez-vous en cas de cours, il y a un silence total. Ce n'est qu'à la fin des cours qu'il y a vraiment un gros brouhaha. Et on l'entend très bien dans cet amphithéâtre. Donc en montant les quatre petits escaliers devant nous, on tombe face à ce tableau majestueux qui représente tout simplement des personnages dans un cadre champêtre. Toutes les façades sont décorées, les murs ne sont pas fades. On voit aussi qu'il y a des statues qui sont éclairées par en dessous. On peut voir des balcons, il y en a 5 au total, avec un étage inférieur et un étage supérieur. On a un micro sur la table pour le professeur, pour qu'il puisse parler face aux élèves. Donc on va tester si le micro fonctionne. On peut voir qu'il fonctionne. Bonjour, chers élèves. On se dirige vers le piano maintenant. Le piano est couvert d'une bâche et il me semble qu'il est fermé et qu'on ne peut pas l'utiliser sans autorisation. Un autre aspect moderne dans cet amphithéâtre, ce sont les lumières, les spots. Voilà, on a des spots qui sont présents sur les côtés. Ça peut être dans le cadre d'une représentation théâtrale, j'imagine, une représentation artistique, puisqu'on a le piano, mais aussi peut-être si le professeur tient une conférence, si le professeur veut se donner des airs de star. C'est impressionnant. Je me demande comment les profs y font face aux élèves. On voit qu'il y a énormément de places assises et surtout, en fait, on est frappé par la statue de Richelieu en face. Tous les murs sont décorés. On voit qu'il y a écrit Paris au-dessus, Rome à droite et une inscription en grec à gauche. En grec ou russe ? Le plafond, c'est une sorte de grand trou couvert de vitres avec des lumières derrière. Il me semble que c'est des LED. Il y a un contraste avec la modernité des lumières et l'ancienneté de l'amphithéâtre. Maintenant, je vous prends par la main et on y va. On va monter dans les balcons. C'est un escalier en bois. Il est très, très étroit. Maintenant, on a vraiment la vue sur tout l'amphithéâtre. C'est vraiment super beau. On est à peu près à la hauteur des statues. Donc, on voit un peu ce qu'ils voient, entre guillemets. Les murs sont un peu abîmés par le temps. La peinture se détache un peu. Peut-être que c'était un élève qui s'ennuyait. Je ne sais pas. On va tester la qualité des bancs. C'est des bancs en bois. Aussi, il faut savoir qu'il n'y a pas de table. Donc, on doit écrire sur nos genoux. C'est un peu inconfortable, pour être honnête. Vous allez peut-être avoir la chance d'étudier dans ce magnifique amphithéâtre. Cependant, préparez peut-être des coussins ou vos manteaux, puisque vous allez finir par avoir très mal au dos à la fin des cours. Et merci beaucoup d'avoir écouté ce petit enregistrement et à bientôt.
Merci Lavinia pour cette carte postale. On aimerait bien aussi faire toutes nos émissions au sein de l'amphi Richelieu, comme et la semaine dernière.
Meilleur endroit pour enregistrer avec l'énorme tableau derrière. Là, les photos sont magnifiques.
Il nous manque déjà, franchement. C'est triste.
C'est génial avec tout le monde.
Et malheureusement, c'est la fin de Cours d'honneur, épisode 11.
Merci de l'avoir suivi. Merci à notre invitée Marianne Boula.
Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Radio Sorbonne Université existe sur Instagram, sur les plateformes de podcast et dans ta fac aussi.
Merci à toute l'équipe, évidemment.
Merci à Thomas derrière les platines.
Merci les gars, c'était un plaisir. Bon, je vous aime beaucoup, mais comme on dit, hein, c'est pas avec vous que je partirai à la guerre.
Hein. Oh, ouais, on sait bien. Merci beaucoup, Lavinia.
Merci les filles, et pour être honnête, je trouve qu'on ferait une bonne équipe en cas
d'émission.
Oui, exactement.
Ouais,
exactement.
Absolument.
Ouais.
Reporter de guerre. Sur vous. Mais parti. Ouais.
Voilà. Et merci aux nouvelles recrues.
Oui, merci à Ellie.
Avec grand plaisir.
Et à Clara. Merci.
on est trop contentes que vous soyez parmi nous maintenant. Et merci à Alice.
Merci les filles, vous êtes rayonnantes comme d'habitude, toujours un plaisir de vous avoir à l'animation.
Tu es trop mignonne et sans oublier évidemment le fameux Elias.
Eh ben merci aux nouvelles recrues d'être là et puis merci à tous nos fidèles auditeurs d'être fidèles et auditeurs.
Exactement, les meilleurs rôles. Merci évidemment à Radio Campus Paris, Big Love pour leur soutien inconditionnel et pour le partenariat.
N'oubliez pas, Cours d'honneur passe au mode bimensuel. Un épisode toutes les deux semaines.
Merci d'avoir été avec nous avec amour.
À travers la guerre et toujours avec une touche de swag. Soyez vous-même.
Soyez fous même.
Restez curieux.
Restez avec nous.
On vous aime.
Bisous, ciao.
sûr tu me coupes la parole.
J'ai pas réussi à remplir les DM.
Je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, qui pec, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est...
La cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République, parce qu'on sait jamais, hein.
Ça va tout changer, parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement, est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit ou...
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.